Bonjour. Un plaisir de vous voir ce matin. Des visiteurs que l'on voit une fois par an, d'autres pour la première fois et d'autres plus régulièrement. Que ce culte puisse être un encouragement pour chacun. Et comme annoncé semaine dernière, ce matin nous reprenons le même texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 16, que nous avons fait en partie semaine dernière, et nous réfléchirons à certains versets que nous avons mis de côté. Et pour commencer, je propose donc de relire ce que nous avions lu semaine dernière déjà. Donc, Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon Pierre répondit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ne ce sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père, qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et ressuscité le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant, « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Mais lui se retourna et dit à Pierre, « Arrière, Satan, tu es pour moi une occasion de chute, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Nous nous sommes concentrés semaine dernière sur la question du passage, à savoir qui est Jésus, au dire de la foule, parmi laquelle les opinions étaient diverses, puis selon la belle confession de Pierre, évidemment. Mais malgré cette compréhension du fait que Jésus est le Messie, nous avons souligné que Pierre n'avait pas encore saisi le cœur de la mission du Christ, comme le montrent les reproches qu'il a adressés à Jésus, alors que celui-ci commençait à mettre en avant les souffrances et le rejet à venir du Messie. En effet, contrairement aux attentes d'un Messie politiquement victorieux, le Messie, selon le plan de Dieu, devait souffrir et passer par la croix. Événement obligé pour le salut de l'humanité. La victoire du Messie, on l'a chanté tout à l'heure, qu'il était victorieux, car il a bien été victorieux, est avant tout spirituelle, victoire sur le péché et sur la mort, car Christ est mort, mais il est ressuscité. Jésus l'annonçait, mais Pierre ne le comprenait pas encore. Et nous avons insisté sur le fait que la croix est une vérité incontournable pour quiconque pour avoir accès au royaume de Dieu. Sans l'appropriation personnelle de la grâce de Dieu offerte par le sacrifice de Christ à la croix, pas d'accès au royaume de Dieu. Et ce matin, on ne pourra pas encore tout dire du passage, mais on va revenir sur verset 17 notamment, à partir desquels je vous propose quelques réflexions. La réponse de Jésus à la confession de Pierre commence par « heureux ». Oui, Pierre est heureux. Ce même mot que l'on trouve dans les Béatitudes, dans le premier psaume, et dans bien des passages exprimant le bonheur selon Dieu. Le bonheur selon Dieu qui a une définition, on le sait, bien différente des conceptions humaines, et en tout cas de la conception du monde de ce qui pourrait nous apporter le bonheur. Heureux. C'est la traduction habituelle dans nos Bibles en français, mais vous le savez bien sûr, ce n'est pas heureux au sens de simplement très joyeux ou très content. C'est heureux comme le ressenti, la béatitude, la félicité céleste associée avec le fait de recevoir la faveur ou l'approbation de Dieu. Les Bibles anglaises ont d'ailleurs plutôt le mot « béni ».« Béni es-tu, Simon ?» Peut-être plus proche du mot original. On l'a chanté aussi ce matin. « Je veux te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. » Ici, c'est une bénédiction en conséquence et en félicitation de quelque chose fait par Pierre. Et ce n'est pas anti-biblique, au contraire, Dieu nous félicite aussi de ce que l'on peut dire ou faire, en plaçant et en exprimant sa foi en Christ. Pierre a découvert la clé du bonheur et a obtenu la faveur divine. Voilà ce que lui confirme Jésus. Et vous, et nous, sommes-nous heureux ce matin ? Heureux selon la signification que Dieu donne à ce mot ? Avons-nous la joie du salut ? La paix de la réconciliation divine ? Ressentons-nous la faveur divine d'être désormais ses enfants, filles et fils de Dieu, membres de sa famille ? La certitude de l'amour de Dieu pour nous, la joie de connaître Christ et donc la joie de connaître Dieu, c'est la clé du vrai bonheur, nous dit ce texte. Mais Jésus confirme que c'est Dieu qui a ouvert les yeux spirituels de Pierre pour qu'il comprenne, commence à comprendre en tout cas, qui est véritablement Jésus. Car au-delà d'une connaissance académique ou intellectuelle, de son identité, Pierre confesse désormais une foi personnelle en Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et seule l'action divine, changeant les cœurs, peut permettre cela. C'est une révélation divine que Pierre a simplement acceptée dans sa vie. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec cette parole que l'on trouve ailleurs dans les Écritures, de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, Éphésiens 2, versets 8 à 10, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. » Car par notre union avec le Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui révèle, c'est Dieu qui se révèle. La Bible est la révélation de Dieu. Beaucoup de nos contemporains diront peut-être alors, « Ouais, mais moi Dieu ne me parle pas. » Dieu ne se révèle pas à moi. C'est de sa faute si je ne crois pas. Dieu ne m'a pas choisi. Dieu ne me parle pas. Est-ce un raisonnement valable? Est-ce une bonne excuse? Peut-être que certains parmi nous ce matin le pensent aussi. Mais peut-être que si on se dit que si vous entendez tout ce qui se dit ce matin dans ce culte, c'est bel et bien que Dieu vous parle. C'est bel et bien que Dieu frappe à la porte de votre cœur et vous l'entendez bel et bien. Et la balle est dans votre camp. La responsabilité de lui ouvrir la porte ou non, d'accueillir cette grâce par la foi ou non, est la vôtre. Elle est une responsabilité individuelle pour chacun et chacune d'entre nous. Simple, mais pas toujours facile. Nous avons chacun et chacune notre pas de foi à faire en acceptant cette révélation comme vraie. Chacun a un pas de foi à faire en acceptant cette révélation comme vraie. Dieu a révélé la vérité à Pierre concernant Jésus. Ça, c'est la part de Dieu. Et Pierre y a cru. Ça, c'est la part de Pierre. Et il en va de même pour chaque personne. Et l'affirmation de la Bible ensuite, c'est que la connaissance correcte et vraie de qui est Jésus apporte le bonheur. N'est-ce qu'une utopie ? N'est-ce qu'une folle prétention ? À vous de voir. Et j'invite chacun, chacune, à la sortie du culte, à en discuter avec son voisin, en disant « Ouais, mais toi, tu le connais ce bonheur, ou tu le connais pas, ou comment ça se ressent, comment ça se présente ?» Discutons-en les uns avec les autres, encourageons-nous les uns les autres à faire ce pas. L'acceptation de la révélation de Dieu, c'est une bénédiction, c'est la bénédiction. Ainsi l'affirme Dieu lui-même. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Heureux es-tu. Vous aurez remarqué que Jésus ne dit pas « Tu es heureux, Pierre ». Mais il y a un rappel délibéré de son origine. Simon, pêcheur du lac de Galilée, pêcheur avec un accent circonflexe, celui qui attrape les poissons, fils d'un pêcheur du lac de Galilée. Jésus ne fait évidemment pas cela pour le rabaisser en rappelant ses origines plus que modestes, ou le fait qu'il soit sans instruction, mais c'est plutôt, je pense, pour souligner que rien ne le prédestinait, humainement parlant, un tel honneur et un tel bonheur, connaître le Messie. Et ce n'est pas rien ce privilège. Mais il n'est pas réservé à une élite, il est bel et bien pour tous. Quelle que soit son origine ou ses capacités, même pour un Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas notre nature humaine, ni même notre éducation ou notre instruction qui arrivera à nous amener à un tel niveau de compréhension. C'est Dieu qui par son esprit nous enseigne, c'est Dieu qui par son esprit se révèle, si nous voulons bien l'accepter. C'est toujours Dieu qui nous révèle la vraie nature de Christ. Et c'est pour cela que Dieu doit avoir toute la gloire, et nous lui rendons gloire ce matin. Pierre, c'est un surnom que Jésus lui donne à ce Simon. Il est précisé par ailleurs dans l'évangile de Jean, que Jésus lui donne ce surnom dès leur première rencontre. Mais nous avons ici l'explication du pourquoi dans ce passage. « Je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. » Ah, ben c'est parce que Jésus aime bien les jeux de mots. Dans la langue d'origine, en araméen, et aussi en grec, et puis en français, et je pense dans beaucoup de langues, ce prénom, et c'est la même chose que l'objet, la pierre. C'est vrai que Jésus a de l'humour, mais il a surtout un plan particulier pour Pierre, comme il en a pour chacun et chacune d'entre nous d'ailleurs. Et ce nom de Pierre, de par sa signification, illustrait le fait que Dieu avait choisi de confier à Simon-Pierre un ministère de première importance, dont il donne quelques indications ici. Et ce petit bout de verset fait l'objet de grandes controverses. Déjà, les sceptiques ont souvent dit que ce groupe de versets, les versets 17 à 19, sont probablement pas authentiques. Car pour eux, la notion d'église qui est mentionnée est anachronique. Jésus ne pouvait donc pas en avoir parlé. C'est vrai que le mot église n'apparaît que deux fois dans les évangiles. Et seulement deux fois en Matthieu. Ici, dans ce chapitre 16, et une fois dans le chapitre 18, c'est tout. C'est vrai que personnellement, en tant que croyant en un Dieu omniscient, je ne suis pas choqué que Jésus sache ce qui va se passer dans l'avenir. C'est même plutôt rassurant. Mais douter de ces versets, ça serait aussi méconnaître le fait que le mot « église » n'est pas étranger du tout au vocabulaire biblique ancien. « Église », »,« ecclésia » en grec, c'est juste la traduction d'un mot hébreu qui veut dire « rassemblement »,« communauté », »,« ceux qui sont appelés hors d'eux ». Et il est fréquemment utilisé dans la traduction de l'Ancien Testament, même en grec. Cette fameuse Bible de la Septante dont je parle quelquefois, pour parler du peuple de Dieu, c'est ce mot-là qui est utilisé. Et l'idée que le Messie rassemblerait une communauté messianique autour de lui faisait bel et bien partie de l'espérance d'Israël. Ce n'est pas une invention tardive, et Jésus suggère simplement et bel et bien que la communauté qu'il établira sera en continuité avec l'Israël de l'Ancien Testament. Ce sera le nouveau peuple de Dieu, mis à part, appelé hors d'eux, hors du monde. L'Église catholique romaine a aussi utilisé de manière exagérée ces versets, en tout cas me semble-t-il, pour justifier certaines prétentions venues par la suite, en particulier concernant la primauté du pape dans la direction de l'Église. Selon ces versets, pour eux, Jésus a institué une primauté de Pierre dont peuvent se prévaloir les évêques de Rome, qui ont toujours, selon eux, été les successeurs de Pierre. L'infaillibilité des papes aussi viendrait de là, de ce passage, car il aurait hérité des clés du royaume et pourrait ainsi décider ce qui est lié, ce qui est délié. Je ne suis pas théologien, mais ça me semble des interprétations quelque peu excessives pour justifier des agissements ou des décisions d'une institution qui est devenue, après quelques siècles, peut-être trop humaine et trop politique. Mais on ne va pas rentrer dans ce genre de débat ici. Et en contre-pied, les protestants, eux, ont peut-être aussi de manière excessive souvent rejeté l'interprétation selon laquelle Jésus parlait bien de l'apôtre Pierre quand il disait « sur cette pierre ». Certains l'ont plutôt compris en disant « non, non, sur cette pierre, ça veut dire sur la confession que vient de faire Pierre ». Ainsi feront partie de l'Église tous ceux qui confesseront que Jésus est pour eux le Christ. Ou soit pour dire que la pierre dont parle Jésus, c'est Jésus lui-même. Ces deux choses sont évidemment vraies aussi, comme le disent plusieurs autres versets. Christ est effectivement le fondement sur lequel l'Église, le corps de Christ, est construit. L'Église est assurément l'ensemble du peuple de Dieu, tous ceux qui confessent Jésus comme le Christ révélé dans la Bible, Dieu le Fils incarné. Mais ce n'est pas pour autant nécessairement que ce que voulait dire Jésus ici à Pierre, de façon personnelle. On ne va pas rentrer dans ce genre de débat non plus ici. En tout cas, à l'écart des débats théologiques, que l'on peut trouver intéressant ou pas, moi je suis simplement reconnaissant. Reconnaissant pour l'exemple de Pierre, pour l'exemple de l'œuvre de Pierre, de Seigneur, pardon, dans et par la vie de Pierre. Simon, fils de Jonas, un simple pécheur, quelqu'un de naturel plutôt instable et vacillant, on le voit à bien des reprises dans les évangiles, mais lorsque le Saint-Esprit l'a transformé, il est réellement et évidemment devenu vraiment Pierre, roc, un pilier de l'Église. Oui, l'apôtre Pierre a été, par grâce et par choix divin, un instrument particulier dans la main du Seigneur. Pour les débuts de l'Église, ne lui enlevons pas ça, n'y rajoutons rien non plus. Et comme annoncé par Jésus dans ses versets, oui, Jésus a effectivement utilisé Pierre de façon privilégiée. L'événement a confirmé la prophétie. Et relisez le livre des Actes et vous verrez bien que les premiers chapitres du livre des Actes sont quelque peu les actes de Pierre animés par l'Esprit. Il nous présente Pierre comme un élément fondateur, unificateur, essentiel à la communauté chrétienne naissante. Par exemple à la Pentecôte, pour prêcher aux premiers juifs qui se convertiront, en acte 2, puis en Samarie, pour accueillir dans une seule et même église, l'église de Christ, les premiers samaritains qui se convertiront. Et il le fait avec l'apôtre Jean, et suite au travail de Philippe, le diacre, pour montrer que ce n'est pas lui tout seul, c'est en acte 8. Puis toujours pour accueillir dans une église, une communauté unique, les premiers païens, qui se convertiront. Corneille et son entourage, ça c'est en acte 10. Et en outre, c'est aussi l'évangile de Marc qui est reconnu, c'est l'opinion qui prévaut depuis les débuts de l'Église, l'évangile de Marc qui rapporte en fait le témoignage de Pierre sur Christ. Et il a aussi écrit ses deux épîtres. Oui, Pierre a bien occupé aux yeux de l'Église primitive le rang que le maître lui avait assigné. Dieu l'a utilisé pour expliquer aux autres ce qu'il devait faire pour être sauvé. Dieu l'a utilisé pour assurer la cohérence des chrétiens d'origine très diverses, voire même antagonistes des fois, en un seul corps de Christ. Mais toute la gloire revient au Seigneur. Toute la gloire revient au Seigneur. Pierre a exercé son rôle avec humilité et il était aussi bien conscient qu'en premier lieu, c'est Dieu qui agit. Que lui n'était qu'un instrument. Et moi j'aime bien par exemple, quand il fait son rapport à l'église de Jérusalem après la conversion des premiers païens, alors qu'on lui reproche d'être entré chez des païens, justement des incirconcis, qu'il a mangé avec eux, Pierre raconte, en acte 11, « J'ai commencé à leur parler, mais l'Esprit Saint est descendu sur eux, de la même manière qu'il était descendu sur nous au commencement, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, quand nous avons cru. Qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu ? Qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu ?» Pierre est très impliqué, Pierre est très engagé dans les débuts de l'Église. Mais c'est bel et bien Dieu qui agit par-dessus tout. Et Pierre, dans une large mesure, observe simplement, émerveillé, ce que Dieu fait. Ne devrions-nous pas être pareils, simplement ? Pas juste de simples observateurs, mais engagés, comme Pierre. Mais nous émerveillons de ce que Dieu fait. Pas de ce que nous arrivons à faire. Est-ce que quelqu'un ici croit que Dieu peut encore faire ce genre de transformation dans nos propres vies ? Ah, une, yes ! Est-ce que quelqu'un ici croit que Dieu peut encore faire ce genre d'action révolutionnaire dans nos vies ? Comme il l'a fait en Pierre ? Oui, bien sûr que oui, et Dieu a d'ailleurs déjà commencé son œuvre en nous, si nous lui en avons donné le droit. Et Dieu continue son œuvre autour de nous. Christ a bel et bien commencé à construire son Église sur Pierre en particulier, mais cette belle œuvre est loin d'être terminée. Nous sommes 2000 ans après, et elle continue encore aujourd'hui. Et l'Église n'a jamais été aussi nombreuse. J'espère que nous nous réjouissons de ce que Dieu continue son œuvre de salut. Oui, réjouissons-nous pour l'œuvre de Dieu qu'est l'Église. Et voyons aussi en Pierre un exemple de ce que Dieu peut faire en nous et par nous. Ah, évidemment, nous ne sommes pas appelés au même ministère que Pierre. Mais ça, c'est pas grave. Pas de jalousie à avoir. Je suis sûr que Dieu a déjà prévu beaucoup de choses pour nous et qui seront à la mesure de nos capacités et des dons qu'il nous aura donnés. Dieu a aussi prévu pour chacun et chacune d'entre nous de belles œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. C'est la fin du verset d'Éphésiens 2 que j'ai lu tout à l'heure. Dieu a prévu pour chacun et chacune d'entre nous de belles œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Voulons-nous nous insérer dans l'œuvre de Dieu ? Voulons-nous que Dieu nous transforme et nous utilise ? Des fois, on veut bien qu'il nous transforme, qu'il nous utilise, ça dépend, à quelle heure, quel jour, pourquoi faire. Voulons-nous prendre nos justes places dans l'Église du Seigneur ? Dieu fera tout, mais il attend notre consentement et notre engagement, car il en fait souvent une partie par notre intermédiaire. Et par-dessus tout, au-delà de tout, voulons-nous que son Église grandisse encore, ici, dans notre entourage, dans notre région, dans notre pays, et jusqu'aux extrémités de la terre ? Prions et agissons pour cela, par la grâce du Seigneur. Laissons-le nous transformer, reflétons sa personne, et que quand on nous regarde, ils disent « T'as un drôle de bonheur sur le visage, toi !» On ne l'a jamais dit encore, mais ce serait à ça qu'on devrait arriver, si on reflète le bonheur que Dieu met dans nos vies. Qui ne veut pas dire une vie rose, hein, on l'a bien rappelé. Tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon Église. L'apôtre Pierre, pierre vivante, au service du Seigneur que Jésus va utiliser pour construire, édifier. Il va être un fondement. Mais Pierre est à ce moment-là encore loin d'être parfait, On l'a souligné la semaine dernière, il fera d'immenses progrès encore, transformé par le Saint-Esprit, mais il ne deviendra pas parfait sur terre. Et nous non plus. Et notre texte souligne fortement que Pierre a aussi des pensées humaines encore. Quand il fait sienne les pensées du monde, on l'a dit semaine dernière, il fait le jeu de l'adversaire de Satan, même si c'est inconsciemment, dans ce cas particulier. Pierre le prit à part, il prit à part Jésus et se mit à le reprendre en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. Non, 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 la croix t'ira pas, c'est n'importe quoi, je suis contre. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es pour moi une cause de chute, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Là, c'est une autre image de Pierre qui est utilisée. On ne voit pas trop dans les traductions, ça dépend lesquelles. Une cause de chute, c'est une pierre qui dépasse du chemin, une pierre qui fait tomber ce qui passe. Imaginez un chemin bien nivelé, et puis au milieu, il y a une petite pierre qui dépasse. Puis vous courez sans regarder, c'est une occasion de chute, une pierre d'achoppement. C'est ce que veut dire la traduction littérale de ce mot, scandalon en grec, on la traduit souvent par scandale en français, mais c'est une occasion de chute pour les autres. Une pierre qui dépasse, qui ne devrait pas, et qui fait trébucher. En s'opposant, parce qu'il ne le comprend pas encore, au chemin du sacrifice et de la croix que Jésus doit emprunter, selon le plan de Dieu, Pierre est une pierre d'achoppement pour Jésus à ce moment-là. Évidemment, et bien heureusement, Jésus ne tombera pas dans ce piège. Jeu de mots, entre ces différentes pierres, Pierre l'individu, Pierre la pierre de construction, Pierre, la pierre d'achoppement, pierre positive, pierre négative. Une même pierre peut être plusieurs choses et des choses diamétralement opposées, avec des effets contraires. Alors on peut le comprendre facilement pour nous, être humains comme Pierre, hein, avec nos hauts et nos bas. Nous sommes des disciples en apprentissage. Mais quel genre de pierre sommes-nous? Quel genre de pierre voulons-nous être? Quel genre de pierre aimons-nous être? Pierre de construction ou pierre d'achoppement? Je lui ferai bien tes croche-pieds à celui-là, il m'énerve. Toc. Des fois, on a peut-être ce genre d'état d'esprit, non? Quel genre de pierre voulons-nous être pour le Seigneur? Et en guise de conclusion, dans cette dernière partie, posons-nous bien, évidemment, ce genre de questions. Sommes-nous plutôt des pierres de fondation, de soutien pour l'Église, de soutien pour les frères et les sœurs, ou sommes-nous plutôt des pierres d'achoppement, des obstacles, des objets de scandale? Les mots sont forts, hein, mais c'est bel et bien la traduction littérale du mot, je vous l'ai dit. Et je me suis demandé quels exemples concrets nous pourrions considérer pour ce côté pierre d'achoppement et pour ce côté pierre de construction. Et sans commentaire particulier, je me suis dit que ce serait bien de juste relire la liste que nous avions déjà abordée dans un message l'année dernière, à l'automne, sur la famille de Dieu. Si vous vous souvenez, nous avions listé tous les versets du Nouveau Testament contenant l'expression « les uns les autres », les négatifs et les positifs. C'est donc juste une petite piqûre de rappel. Ça ne coûte pas le pasteur, il reprend les vieux trucs, hein. Et moi, j'ai besoin régulièrement de ce genre de rappel. Seigneur, aide-moi à ne pas être une pierre d'achoppement pour mes frères et sœurs, consciemment, ça c'est sûr, mais même inconsciemment. Mais ne nous satisfaisons pas de simplement ne pas être une pierre d'achoppement. Demandons aussi à Dieu, et Seigneur, aide-moi, au contraire, je le voudrais, être une pierre de construction, de fondement pour ton Église, pour ta gloire. Alors je ne l'ai pas fait, mais je le ferai cette semaine, j'imprimerai en grand, en A3, qu'on pourra laisser sur les murs de l'Église ces versets-là. Là, je lis juste ce qu'ils disent. Je les avais envoyés aussi à tous ceux dont on a l'email, et je leur enverrai si vous le souhaitez, ce rappel de ce que Dieu voudrait que nous ne fassions pas en Église, et ce que Dieu voudrait que nous fassions. Ne nous blessons pas ou déchirons pas les uns les autres. Ne nous provoquons pas et ne nous jalousons pas les uns les autres. ne nous détestons pas les uns les autres. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Ne nous mentons pas les uns les autres. Ne nous calomnions pas ou ne disons pas du mal les uns sur les autres. Ne nous plaignons pas les uns des autres. J'ai oublié de mettre la liste. N'allons pas au tribunal les uns contre les autres. Huit choses pour lesquelles le Seigneur peut nous aider à ne pas être des pierres d'achoppement. Mais au contraire, voici la liste d'œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de particulier à l'apôtre Pierre ou à l'apôtre Paul ou le pasteur super machin ou tel super évangéliste. Ça, ce sont des œuvres bonnes pour tous. Encourageons-nous les uns les autres. Construisons-nous ou édifions-nous les uns les autres. Avertissons-nous et conseillons-nous les uns les autres. Instruisons-nous les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. Et ce verset, il a pas... moi je croyais, j'aimais bien, je me suis dit, ah, je vais être un support pour l'autre. Non, ça c'est quand vraiment quelqu'un vous casse les pieds et vous énerve, le supporter. Réussir à être patient avec lui et doux. Pardonnons-nous les uns les autres. Soyons bons les uns envers les autres. Ayons de l'affection les uns pour les autres. Honorons-nous les uns les autres. Vivons en harmonie les uns avec les autres. Même si le monde pousse plutôt à l'individualisme, à se dire « je reste chez moi tranquille, comme ça j'ai pas de problème avec les autres ». Vivons en harmonie les uns avec les autres. Ayons de la douceur les uns pour les autres. C'est plus que d'indifférence, Dieu nous demande d'être acteurs. Soyons patients les uns avec les autres. Même celui à qui ça fait la 10e fois qu'on lui dit déjà de fermer la porte ou de s'essuyer les pieds en rentrant ou de je sais pas quoi. Accueillons-nous les uns les autres. Revêtons-nous d'humilité les uns à l'égard des autres. En tant que pasteur, je ne suis pas plus grand qu'aucun d'entre vous. Jésus lui-même s'est mis au service de ses apôtres. Revêtons-nous d'humilité les uns à l'égard des autres. Certainement un des plus difficiles, peut-être pour les hommes plus que pour les femmes, je ne sais pas. Il y a quelque chose de pas naturellement facile pour les êtres humains. Mais Dieu change les cœurs. Vivons en paix les uns avec les autres. Prions les uns pour les autres. Offrons l'hospitalité les uns pour les autres. Et hospitalité, on l'avait souligné aussi dans un message précédent, c'est pas simplement accueillir celui que j'aime bien. Hospitalité, ça veut dire accueillir l'étranger, celui que je ne connais pas. Saluons-nous les uns les autres. Exercice pratique dans 10 minutes. Portons les fardeaux les uns des autres. N'hésitons pas à les partager aussi nos fardeaux. Souvent on se dit « Ah, je ne vais pas déranger les autres avec ça, avec mes problèmes, avec ceci, avec cela. » Ça fait aussi partie du privilège de la famille de Dieu. Porter les fardeaux les uns des autres. Mais on n'a pas le don de nécessairement d'omniscience comme l'a le Seigneur, alors on a besoin que vous nous partagiez et qu'on partage les uns avec les autres nos objets et nos fardeaux. Soyons en communion les uns avec les autres. La mise en œuvre des aspects négatifs fera de nous des pierres d'achoppement, des occasions de chute pour les autres, mais la mise en pratique des bonnes œuvres préparées par Dieu d'avance fera de nous des pierres de construction, utiles pour le Seigneur et les autres, et en particulier dans son Église. Et c'est ça qui donnera envie à d'autres personnes de découvrir le Seigneur, parce que nous vivrons exactement ce qu'est le bonheur. Et à mon avis, ça apporte plus au bonheur de vivre ces bonnes choses que de vivre les mauvaises choses. On est certainement plus en paix et plus dans la joie. à nous de choisir, avec l'aide de notre Seigneur. Amen. Et je vous invite à quelques instants de recueillement avant de prier. Et je vais prier, mais si d'autres personnes souhaitent le faire, comme l'horloge ne tourne plus, on a le temps.